Jérémie, c'était l'un des prophètes qui prophétisait contre Jérusalem. Ce n'était pas bien reçu, n'est-ce pas? Commençons maintenant avec Jérémie, chapitre 38. Jérémie 38. Nous parlons beaucoup de Jérémie dans le temps de la fin, parce que pour son époque, il vivait dans le temps de la fin. Il vivait dans une époque où la ruine allait éclater, allait être soudaine, allait arriver vite. Mais Jérémie était obligé de dire de mauvaises nouvelles. D'autres prêchaient, comme nous avons mentionné l'autre jour, paix et sécurité, n'est-ce pas? C'est ce dont nous avons discuté pour la fête des trompettes. Les faux prophètes disent paix et sécurité, n'est-ce pas? C'est une fausse prophétie. Ils disent, ah oui, Dieu est tellement miséricordieux que, oh, il ne va pas juger le monde. Pourquoi Dieu ferait ça? Et ils inventent eux-mêmes leur propre perspective de Dieu et ils inventent en final leur propre Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire à plusieurs, je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Mais Jérémie 38 nous donne quand même une situation assez difficile pour ce prophète. Mais pour moi, c'est très imagé parce que si vous considérez l'importance de la parole de Dieu dans le monde aujourd'hui, c'est comme si la parole aussi, elle-même, est lancée dans une fosse. Et donc, c'est le cas pour Jérémie, la fosse, il est dans la fosse, dans une citerne. Jérémie 38, verset 1. Shephatia, fils de Matan, bien d'autres hommes, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. » Donc l'ordre de l'Éternel, c'était de capituler. C'était l'ordre de l'Éternel. Sédécias n'a pas obéi à ça. Mais l'ordre, c'était pour Sédécias, c'était pour tout le monde aussi, se sauver. Ne sois pas attaché à cette ville physique, à tes murailles. Ces murailles ne vont pas te défendre aujourd'hui parce que Dieu envoie ce jugement. Dieu a décidé de juger maintenant. Il ne va pas vous protéger parce que, voilà, il ne va pas protéger le temple, il ne va pas protéger la ville parce que c'est Dieu qui a décidé d'intervenir. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Est-ce qu'en ce moment-là, quand on entend ce type de choses, on va quand même dire, oui, je sais, mais je vais quand même commencer, continuer à lutter. Non, on va obéir à Dieu et on va laisser entrer les armées. Verset 4, et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant les pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, et il veut que son malheur. Alors le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Jérémie a passé peut-être plus d'un jour sans boire, sans manger, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons compartir un petit peu aujourd'hui avec la situation de Jérémie en étant à jeûne? Il est important de considérer l'impact de refuser Dieu, de refuser sa parole, de refuser ses instructions. Et il est aussi important de considérer jusqu'à quel point le monde ne veut pas écouter. Le monde voudrait rester au pouvoir. Ceux qui étaient des conseils pour le roi de Sédécias, alors Sédécias, dans son mauvais jugement, leur a laissé juger. Puis c'est comme s'il ne serait pas coupable de ce qui allait se passer, n'est-ce pas? S'il dit c'est entre vos mains, et s'il n'intervient pas pour le prophète Jérémie, les gens vont comprendre un petit peu la situation, n'est-ce pas? Après lui, il a les mains blanches, il a les mains propres. Mais les autres avaient mis Jérémie dans la citerne. Encore une fois, ça nous donne quand même la vision de ce que l'homme est en train de faire à la parole de Dieu aujourd'hui. De le jeter dans la boue, de le jeter dans la citerne. De jeter la parole vivante et convaincante, la parole qui rend quand même tellement de bonnes choses dans la vie, de la jeter dans la citerne, d'ignorer son importance. Si nous continuons un petit peu plus loin, au verset 15, Jérémie 38 et le verset 15, nous allons voir ici, l'histoire continue un peu plus. Jérémie répondit à Sédécias, bien sûr le roi est allé chercher avec ses serviteurs Jérémie pour l'écouter de nouveau. Et puis au verset 15, Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Il sait que ça va passer à l'inuit. Verset 16, le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant. Lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir. Et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. C'est un secret tout ça. » Jérémie, verset 17, dit, « Alors à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras toi et ta maison. » Une grande promesse. Même s'il faut s'enfuir, c'est mieux que tout perdre, n'est-ce pas? Et si on s'attache aux murailles, si on s'attache au temple, si on s'attache à ces choses contre la parole de Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'obéit pas. Mais, verset 18, « Si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Personnelle, c'est une parole personnelle pour Sédécias. Verset 19, le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens, je crains qu'on ne me livre entre leurs mains. » Et qu'il ne m'outrage. Donc son peur, sa peur l'a empêché, n'est-ce pas, de bien juger, parce qu'il pensait que le fait qu'il n'était pas voulu par les autres, qu'on aurait préféré Joachim, alors que son avenir ne sera pas très, très bon. Verset 20, Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. » Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes les femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. Sédécias a-t-il jamais eu l'intention de l'écouter? Ce message et ce passage met tellement de blâme sur ce roi, peut-être, mais c'est peut-être la pire chose qu'il aurait pu faire, c'est de ne pas écouter. Vraiment, la blâme tombe sur cette mauvaise décision. Malgré l'avertissement sévère du Seigneur, Sédécias conspire contre Babylone et il refuse de capituler. Nebuchadnezzar a ensuite assiégé et détruit Jérusalem. Sédécias fut amené enchaîné à Nebuchadnezzar, qui le força à assister à l'exécution de ses fils. Il l'aveugla et l'envoya enchaîné à Babylone, où il mourut. Une triste histoire d'un homme qui aurait pu bien choisir. Il ne voulait pas écouter, il ne voulait pas capituler. Sédécias a consulté le prophète Jérémie. C'est ça qui est intéressant. Il a même consulté le prophète, il a reçu l'avertissement et il l'a ignoré. Il n'a pas écouté. Il semble que les eunuques éthiopiens pensaient plus à Jérémie que le roi. Indépendamment de ce que Sédécias pensait de Jérémie, il semblait comprendre que le Seigneur parlait à travers ce prophète. C'est comme si Sédécias savait déjà que cette parole venait du Seigneur. Par conséquent, Sédécias désobéissait clairement à ces paroles et ne refusait pas simplement d'écouter le prophète, mais la parole de Dieu. Afin de capituler, comme le Seigneur l'avait recommandé, Sédécias devait mettre en confiance, sa confiance en Dieu. C'est ça qui manquait. Il avait trop peur pour fuir vers Babylone, parce qu'il craignait les Juifs là-bas. Le Seigneur avait envoyé le prophète Jérémie pour déclarer la vérité et annoncer un moyen d'évasion pour Sédécias. Les Babyloniens dominaient le royaume de Sédécias. Son règne dépendait totalement de la volonté de Nebuchadnezzar, mais c'est comme si Sédécias n'était pas au courant de tout ça. Il ne craignait pas les choses qu'il faut, il n'aurait pas dû craindre. Jérémie a été envoyé pour prêcher, encore une fois, pour déclarer la vérité. Pas seulement des choses agréables à entendre, mais des choses difficiles. Mais Sédécias a résisté à faire ce que Dieu avait ordonné. Son cœur orgueilleux refusait de s'abandonner à la fois à l'homme et à Dieu. Il s'est battu. Il a continué à comploter contre Babylone, de faire ses propres desseins. Il n'a pas suivi la parole de l'Éternel. Dans ses derniers efforts pour gagner et avoir sa propre voie, il a conspiré contre Babylone, ignorant la parole du Seigneur prononcée par ses prophètes. Et puis, le résultat est clair. On a déjà mentionné que Nebuchadnezzar a assiégé et détruit Jérusalem. Y a-t-il de l'honneur dans la capitulation? La parole de Dieu semble indiquer qu'il y a de l'honneur dans cet exemple de capitulation, parce que lorsqu'il sauve la vie de beaucoup, il sauve son peuple de la destruction. Le refus de se rendre, si vous voulez, aux armes d'invasion illustre un refus de se soumettre à Dieu. Ils sont bien intercalés. L'obéissance à Dieu dans tous les cas est demandée de nous. Le jour des expiations est un jour qui nous rappelle que Satan ne va jamais capituler. Il ne va jamais capituler. Il se rendra jamais, malheureusement. Et ça, malheureusement, demandera une bataille finale à grande échelle qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Mais bien sûr, Satan est en rébellion depuis des milliers d'années, et bien voire plus, contre Dieu. Nous voyons dans Apocalypse 12 un résumé, si nous pouvons nous reporter en Apocalypse 12, nous avons un résumé de l'histoire des efforts de Satan pour attaquer le royaume de Dieu, le Fils de Dieu et l'Église. Apocalypse 12. est un résumé à ses attaques, à ses complots, à ses desseins pour rester au pouvoir, même s'il sait que Dieu existe, même s'il sait la puissance de Dieu, il va quand même continuer sans cesse à comploter contre le trône de Dieu, contre le peuple de Dieu, contre tout ce qui représente Dieu. Alors nous sommes inclus là-dessus, parce que nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous sommes les siens. Donc, Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, voilà, nous avons un résumé de cette rébellion. Et c'est déjà mentionné aussi dans ce même chapitre. Il y a un tiers des étoiles du ciel, un tiers des anges qui ont été séduits par Satan en rébellion aussi. Et puis au verset 10, un peu plus loin, on peut quand même lire le reste, mais ils ne furent plus de place pour les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, verset 10. Et j'entendis, Jean nous écrit, dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, à la fois, nous avons l'image de cette rébellion qui n'a pas cessé, et puis, nous avons la promesse aussi de la gloire, du règne de Dieu, de la puissance ultime qui reste entre les mains de Dieu. Malgré ses efforts, Satan ne va pas gagner. Aujourd'hui, le jour des expiations, le jeûne est une expression de foi en Dieu et de la dépendance de Dieu pour pouvoir éliminer la cause première du péché. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Dieu pour nous humilier devant lui et nous nous tournons vers lui pour rétablir sa relation avec l'humanité, pour préfigurer le jour où Dieu interviendra pour vraiment rétablir cette relation avec l'humanité. Depuis que Satan a séduit Adam et Ève au jardin d'Éden, cette relation est brisée. Au point même où Dieu, en voyant la violence dont regorgeait la terre au jour de Noé, a détruit toute la terre. Et il a promis que ça ne va pas arriver de nouveau. Puis, qu'est-ce que nous voyons au chapitre 19? Un peu plus loin, Apocalypse 19. La culmination de sonner la trompette pour annoncer l'arrivée du roi. Apocalypse 19 et le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. C'est quand même Jésus-Christ, nommé aussi la parole de Dieu. Alors nous prions que ton règne vienne pour que son retour soit acté. Et puis, bien sûr, nous avons au chapitre 20, un peu plus loin. Chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et puis, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. C'est ça la délivrance, n'est-ce pas, pour l'homme? La délivrance de la séduction de Satan. C'est ça. Satan doit être lié, enchaîné. Et son influence doit être enlevée, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut pour que le monde commence vraiment à être renouvelé. Dieu a déjà commencé avec nous les prémices. Il a déjà commencé en nous donnant la vérité et la protection pour que nous nous développions en tant que serviteurs. Mais le monde en a besoin également. Et la façon de le faire pour le monde entier tout en même temps, c'est enchaîner Satan. C'est d'enlever Satan et de ne plus lui donner l'influence dans le monde. Donc nous avons au verset 3, un peu, c'est pas Jérémie cette fois-ci, c'est Satan qui est jeté dans l'abîme. Au lieu que la parole de Dieu soit jetée dans la fosse, c'est Satan lui-même. C'est l'adversaire lui-même qui sera jeté dans l'abîme. Verset 3, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. L'expulsion de Satan du ciel sur la terre est suivie d'une activité plus intense de sa part parmi les nations. Mais son emprisonnement dans l'abîme le rend impuissant à leur égard. La première période caractérise par sa brièveté et la seconde dure 1000 ans. Christ, dans sa puissance, empêchera le diable de séduire l'humanité comme il a fait jusqu'à présent. Il le fait, il séduit l'humanité. Donc, Christ dispose en effet tout le pouvoir et les moyens pour briser la puissance de Satan. Nous sommes déjà quand même avertis de tout ça dans Matthieu 4 et l'idée que Christ a résisté à la séduction du diable, n'est-ce pas? Donc, si nous considérons maintenant un peu d'histoire sur Satan, Ésaïe chapitre 14. Il ne va pas céder, il ne va pas capituler. C'est sa façon, n'est-ce pas? C'est son caractère de ne pas céder. C'est orgueil et c'est la fierté qui est en lui. Il est l'auteur du mensonge aussi. Nous parlons de ce même être qui n'a pas changé. Il n'a pas changé son caractère. Dieu cherche un changement chez nous, frères et sœurs. Dieu ne veut pas que nous soyons convaincus de nous-mêmes et de choisir notre propre façon de faire. Dieu voudrait que nous capitulions pour que lui, pour qu'il règne dans notre cœur, pour que Dieu puisse travailler avec nous et à partir de dès maintenant. Si nous cédons la place à Dieu, si nous capitulons à Dieu, nous allons permettre une croissance spirituelle en nous. Et c'est le souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu de le faire. Donc, Ésaïe 14 et le verset 12. Ésaïe 14 et le verset 12. C'est la punition de Satan ici. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de la santé, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume? Intéressant, ça. On va voir cet accomplissement une deuxième fois dans l'avenir. qui, verset 17, réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Wow! Ces choses nous font penser à l'avenir maintenant. Ce sont des choses du passé, peut-être d'un passé très lointain, mais ils nous font penser à la rébellion en cours et notre besoin de l'intervention de Dieu. Nous sommes avertis, frères et sœurs, contre ces choses. Alors, nous pouvons continuer à lire des extraits dans Ézéchiel aussi, le chapitre 28. Ézéchiel 28, un autre chapitre lié à l'adversaire et la rébellion de Satan. Ici, il est nommé prince de Tyr. Donc, Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. « Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. » C'est intéressant qu'on en a besoin de ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un a besoin d'entendre que tu n'es pas Dieu, tu es un homme, c'est quelqu'un qui est intéressant, hein? En rébellion contre Dieu peut-être, qui voudrait prendre la place de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 3, « Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi par ta sagesse et par ton intelligence. Tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. » Donc, on dirait que mondialement, il a un succès. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Frères et sœurs, les royaumes de ce monde ne sont pas appauvris. En particulier, le système de Babylone, elle est très riche. Elle est très riche. Elle s'est beaucoup développée de richesses, accrue de richesses, n'est-ce pas? La fausse église de ce monde a beaucoup de fausses richesses aussi, beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir. Et c'est tout un mensonge. Alors, nous avons quand même deux passages clés pour comprendre ce caractère de rébellion de Satan. C'est Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Souvenez-vous toujours de ça. Ce sont des passages clés pour notre compréhension. Un peu plus loin, dans le verset 16, Ézéchiel 28 et le verset 16, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. » C'est une punition, hein, de donner à cet être puissant tellement de honte, n'est-ce pas? Pour comprendre toutes ces choses, nous avons besoin d'étudier ces passages liés à la chute de Satan. Et nous devons aussi comprendre que même s'il a reçu sa punition, il n'a pas capitulé. Il n'a pas cessé d'essayer de reprendre sa place et d'organiser des rébellions et de séduire la terre. Donc, nous sommes avertis. La fête des tabernacles préfigure, on est aux pages 7 maintenant, on préfigure les 1000 ans qui auront lieu après au moins 6000 ans, dans lesquels Dieu limite Satan à sa place sur la terre. En fait, Dieu s'en sert de lui pour accomplir sa volonté, le plan de salut pour l'humanité. Chaque étape majeure du plan de salut est représentée par la défaite éternelle, n'est-ce pas, une défaite. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous y figurons en bonne place. Nous ne sommes pas appelés à cause de notre sagesse, notre majesté, notre force. Nous étions des ignobles, des choses viles, des non-désirables quand Dieu nous a appelés à sortir de ce monde. Il a dit qu'il l'a fait pour confondre les sages, n'est-ce pas? Pour confondre les sages. Donc, nous sommes des futurs héritiers et Satan cherche à arracher ces choses de Dieu. Tout ce que nous allons hériter, Satan cherche à l'arracher de Dieu. Dans le millénium, la gloire de Dieu sera révélée à tous. Pour de l'encouragement, nous pouvons chercher Ésaïe 40. Ésaïe 40, ce sont des propos de confort. Même si nous sommes au courant de cette vérité, de cette délivrance, et le fait que cet être spirituel va être lié, nous devons quand même persévérer. La vie n'est pas rendue plus simple. Nous sommes toujours humains avec nos faiblesses, avec nos besoins. Et nous devons passer cette vie quand même avec nos yeux fixés sur le futur, sur l'avenir que Dieu nous a promis. Et sur l'instruction et l'instruction qu'il donne dès maintenant. C'est une instruction comme une nourriture. Alors, Ésaïe 40 et le verset 1. « Consolez, consolez, mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si toutes ces choses vont se révéler dans l'avenir, nous devons marcher dans la foi aujourd'hui, dans les choses que nous ne voyons pas encore. Notre motivation, notre inspiration vient de choses que nous ne voyons pas avec nos yeux fixes, avec nos yeux humains. Nous voyons parce que nous pouvons voir à partir de la parole de Dieu, les promesses. Mais les choses que nous cherchons ne sont pas les choses visibles, mais bien des choses invisibles. C'est ça le grand changement dans le règne millénaire de Jésus-Christ, c'est que les choses qui sont maintenant cachées seront révélées. La gloire sera révélée. C'est ça que nous allons célébrer à la fête des tabernacles. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est représentée par Sion, qui publie cette bonne nouvelle dès maintenant. Verset 9, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel, viens avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. C'est notre espoir, n'est-ce pas? Et pour que ces choses arrivent dans l'ordre, il faut que Satan soit lié aussi. Dieu a envie de donner à l'humanité pendant le millénium une opportunité de croître, de pousser, de vivre sans cette influence, sans cet adversaire malin. Il y aura quand même la nature humaine à travailler, le caractère de l'homme à travailler. Il y aura des choses à travailler, mais sans l'influence du roi séducteur, le roi de ce monde. Le roi des rois va amener son royaume sur la terre, là où Satan est bien installé aujourd'hui. Comme nous avons lu, un ange descendra du ciel pour lier Satan et le jeter dans l'abîme. Donc, pendant le temps, quand le monde sera changé, Satan n'aura pas la possibilité de bouger de l'abîme. C'est une punition difficile pour un homme ou pour un être ambitieux, orgueilleux, affamé de pouvoir. Et Jude, verset 6, nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc pour les anges en rébellion, pour Satan en rébellion, Dieu réserve un jugement particulier. Nous sommes avertis, frères et sœurs, de ces choses qui doivent se passer avant le retour de Jésus-Christ. Et nous nous réjouissons que Dieu nous permette de développer une relation avec lui dès maintenant. Et parce que si Dieu nous a ouvert les yeux, il nous a aussi promis de nous protéger, de cette influence de l'esprit malin. Nous avons une connaissance, l'Esprit de Dieu en nous, les membres de l'Église baptisée, et nous avons une protection particulière sur nous, autour de nous. Comme David avait mentionné dans le psaume 51, que Dieu bâtisse les murailles autour de nous. Si Dieu a promis de nous protéger, il va tenir sa parole. Alors, nous avons beaucoup de passages que nous pourrions utiliser aujourd'hui. Il y a pas mal de choses, tu peux sauter quelques versets. Mais de quel côté voulez-vous être? Vous allez vous trouver de quel côté? Les hommes ont pourtant bien essayé de créer un monde meilleur. Car sans le savoir, ils aspirent au paradis perdu. Mais ils ont essuyé l'échec après l'échec. Donc, quel est le contraire d'être obstiné, têtu, nuisible? Il y a un trait spirituel que nous devons développer, qui fait partie de l'image, de l'imitation du caractère de Christ. Nous devons devenir prêts à céder, disponibles pour Dieu, faciles à enseigner, enseignables. Jacques, chapitre 3, nous donne un exemple. C'est le contraire de ce mauvais caractère de ne pas céder à la volonté de Dieu, de faire sa propre volonté. L'idée, c'est d'être prêt à disposer à changer pour Dieu. Donc, dans Jacques, chapitre 3, nous avons un exemple ici. Dans Jacques, chapitre 3, et le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça continue, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que nous nous identifions avec la sagesse d'en haut et l'esprit qui va avec, le fruit de l'esprit qui va avec? Sinon, il y a bien sûr un esprit terrestre. Il y a bien sûr une sagesse qui est de ce monde. Et ces fruits sont évidents également pour ceux qui sont appelés et inspirés de Dieu. On peut identifier ces choses. C'est pour ça que nous appelons notre revue discerner. L'idée, c'est de discerner entre la sagesse du monde et qui vient de se taire et la sagesse d'en haut. Il y en a plein de conseillers. Il y a 1000 conseillers. Comme c'est le cas, il y avait des conseillers. Il y avait beaucoup de conseillers, mais ces conseillers n'étaient pas pour Dieu. Ils étaient pour leur propre bien, leur propre pouvoir. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, Dieu est prêt et capable à nous aider à restaurer notre relation avec lui. Même si nous sommes éloignés dans les sagesses de ce monde, dans les tromperies, dans les fautes, dans l'erreur de ce monde. Le jour des expiations est un jour qui nous enseigne le besoin de l'homme de restaurer sa relation avec Dieu. Nous devons restaurer la communication avec Dieu. Le jour des expiations est aussi un jour pour imaginer la restauration, pas juste entre nous, mais la communication claire entre Dieu et l'homme. Nous avons mentionné ça plusieurs fois, mais c'est comme un grand haut-parleur, un speaker qui ne hurle rien que des mensonges. Aujourd'hui, si vous cherchez un poste de radio, vous avez beaucoup de postes, hein? Vous avez beaucoup de voix différentes, et c'est comme si toutes ces choses vont s'arrêter pour un message de vérité un jour. Cette journée nous fait penser au début d'une époque où ce haut-parleur sera désactivé. Pour ceux qui écoutent actuellement ce haut-parleur du diable, ils entendront une voix inconnue, la voix de la vérité, la voix de Dieu, pleine de vérité. Ça va changer le monde. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vont communiquer directement avec Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Suite à l'entrée sur scène du serpent, cette communication est devenue perturbée. Nous avons besoin de restaurer un culte convenable où l'homme va louer Dieu en sincérité et en vérité. Passons maintenant à Lévitique 16. Un autre thème de la restauration que nous trouverons dans ce jour des expiations concerne l'adoration de Dieu. De ne pas inventer ses propres cérémonies, ses propres façons, de ne pas faire par hasard certaines choses, mais d'obéir à Dieu dans ses prescriptions, dans ses jugements. C'est ce que ces jeunes, ces hommes, quoi, ils avaient fait, les fils d'Aaron, quand même des fils aînés d'Aaron, ils avaient prétendu de faire leur propre façon, malgré les avertissements, malgré leur préparation. Ils avaient été préparés pendant des semaines avant. Ils avaient été purifiés, beaucoup de cérémonies, instruits. Et qu'est-ce qui se passe dans Lévitique chapitre 10? Excusez. Lévitique chapitre 10. Je suis allé un peu trop vite à Lévitique 16. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Voilà la scène. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Donc voilà, ils ont inventé leur façon. C'est la tendance, n'est-ce pas? Je vais faire ça de ma façon. On va faire ça de notre façon. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Il n'avait rien à dire. Il était au courant de ces choses. Donc, c'était dans le cadre des sacrificateurs et leurs offrandes ou leurs cérémonies devant Dieu. Ils avaient fait leur propre façon. Ils avaient fait une erreur grave. Et Dieu nous démontre avec cet exemple l'importance de rester fidèle au texte, de rester fidèle à l'enseignement, de ne pas mélanger, de syncrétiser, de ne pas mélanger Noël ou les Pâques ou d'autres fêtes païennes. On n'est pas là pour absorber d'autres religions et faire quelque chose, un mélange de tout. On n'est pas là pour ça. Et c'était toujours un avertissement en Israël de ne jamais se marier à des femmes étrangères, parce qu'avec ça, ils allaient apporter leur propre culte, leur propre Dieu, leur propre coutume. Donc c'est pour nous spirituellement un avertissement maintenant. C'est lié à l'idolâtrie, à la sincère respect de Dieu. Donc, nous considérons cet exemple, cette punition assez grave de ces deux hommes, comme un exemple de ne pas jouer avec le feu dans ce sens. Alors, le jour des expiations nous sert aussi d'un bon rappel de nouveau, de l'importance du sacrifice de Jésus-Christ qui a rendu possible la nouvelle alliance. Donc, nous sommes conscients dans ce jour des expiations qu'il y avait quand même des cérémonies importantes à Israël, mais que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur qui intervient pour nous maintenant. Donc, nos péchés sont payés, nos péchés sont lavés, pas par le sang de bouc, de veau ou d'agneau, mais par le propre sang de Jésus-Christ. Alors, nous avons cette leçon dans ce jour aussi. Rien n'est oublié. Mais si on avait le temps, on parlerait plus des boucs, de Lévitique, mais on va aller un peu plus loin maintenant, conclure le message. Le livre de l'Apocalypse révèle qu'il y aura un crescendo de trompettes et de fléaux qui serviront à abaisser les nations et les pouvoirs puissants de ce monde actuel dans lequel Satan est en pouvoir, celui qui ne va pas céder sa place, qui ne va pas se rendre, capituler. Dans le livre d'Apocalypse, Satan est désigné 12 fois comme dragon, ce qui souligne son aspect bestial, féroce et cruel. Et puis le titre de serpent ancien rappelle son rôle dans le jardin d'Éden, lors de la tentation d'Ève. Donc, voyez-vous, il y a une variété de stratagèmes chez lui. Mais, dans tous ces cas-là, il est, comme nous avons lu dans Apocalypse 12, l'accusateur des frères. Il est l'accusateur des frères. Jésus a dit aux Juifs qui voulaient le faire mourir, ils avaient le diable pour père, car depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il est menteur, lui, le père du mensonge, et le mot Satan ou Satanos dans le latin signifie adversaire, celui qui s'oppose. Il est utilisé plus de 50 fois dans les Écritures. Cet adversaire, nous le connaissons par la parole de Dieu. Nous sommes avertis. Et cet adversaire, d'après les Écritures, ne fera jamais le choix de capituler. Alors profitons du jour des expiations afin de nous préparer pour un avenir sans désolation, un avenir plein de paix, un avenir dans lequel nous restaurons la relation entre l'homme et Dieu. Et nous connaissons l'importance de nous remettre en phase avec Dieu. Et nous espérons cette remise en phase, cette connexion entre Dieu et sa création pour toute l'humanité. Alors, nous pensons, nous prions que ce jour arrive bientôt. Ce jour pour enlever l'influence de Satan. Après le retour de Jésus-Christ, Satan sera lié sans cette influence qui rend l'humanité aveugle et sourde aujourd'hui. Le monde va changer. Mais Satan ne va pas capituler. Il faut que Jésus-Christ intervienne. Et ces choses sont prophétisées. Cette parole est vraie. Et nous le trouvons dans la Bible. Donc, bonne journée. Et nous cherchons maintenant à terminer l'assemblée avec un cantique. Et puis, on va méditer ces choses.